Le journal Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Pas assez de médecins en zone rurale et l'été, le manque se fait encore plus ressentir au Pays Basque. Des habitants se mobilisent. Son procès promettait d'être explosif. Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa prison, l'homme d'affaires proche de stars et de personnalités accusées d'agressions sexuelles sur des mineurs. Des dizaines de migrants secourus en Méditerranée chaque jour, des ONG en mer face à une Europe, on le verra, silencieuse. Premier match, première défaite pour l'OM en Ligue 1 de foot. On y revient dans le journal des sports de Thomas Larabie dans quelques minutes. Et on parlera foot également avec votre invité à 8h20, Laetitia.
Oui, dans le grand entretien, Eric Rabessandratana, consultant foot pour Radio France, ancien joueur du PSG. Le championnat reprend, mais il n'y en a que pour le PSG et Neymar. Est-ce que le championnat français ne se résume qu'à un club? Le foot business, le foot des filles depuis la Coupe du Monde, les stades, le jeu, le foot, tout simplement. On parlera de tout cela avec Eric Rabessandratana à 8h20 lors du grand entretien.
France Inter.
Au mois d'août, c'est un classique. Difficile de trouver un médecin et la grève dans les services d'urgence en ce moment n'arrange rien. Mais tout au long de l'année, se faire soigner relève du défi dans certaines zones rurales. C'est le cas en Soule, petit territoire du Pays Basque, au point que des habitantes ont décidé de lancer une pétition citoyenne pour peser sur les politiques et demander aux autorités publiques d'intervenir. Reportage Paul Nicolaï.
Avec ses montagnes très peu peuplées, enclavées entre le Béarn et la Basse-Navarre, la Soule fait partie des zones rurales où la pénurie de personnel de santé se fait cruellement ressentir. Un peu plus de 15 000 habitants y vivent, mais rares sont les médecins à s'y installer, comme le constate Maïtena à l'initiative de la pétition.
J'ai vu le nombre d'habitants en Soule, j'ai divisé par le nombre de médecins, et ça représente actuellement un médecin pour 1 500 personnes, alors que la moyenne départementale était de 1 pour 540.
Les ratios sont du même ordre pour les dentistes ou les radiologues, d'où l'inquiétude des souletins comme Mireille.
Mon médecin est parti, il y a que des remplaçants qui ne valent pas le coup.
Donc vous êtes inquiète par rapport à ça?
Inquiète, oui, parce que j'ai pas envie de mourir. Pas tout de suite, j'ai le temps. J'ai déjà perdu mon mari il y a 2 ans, ça suffit. J'ai pas envie d'aller le rejoindre.
Le manque de médecins est d'autant plus problématique que la moyenne d'âge de la population est en constante augmentation. Ce n'est donc pas le travail qui manque, mais la volonté, d'où la mobilisation de Bénédicte pour faire bouger les pouvoirs publics.
Les gens se rendent compte du problème, mais se sentent impuissants à faire quelque chose. Donc, à faire quelque chose ensemble, du coup, ils viennent signer parce que je dis, oui, vous avez raison.
Et en quelques jours, la pétition a reçu 500 signatures.
Paul Nicolaï, France Bleu, Pays Basque.
Aux États-Unis, des interrogations après un suicide.
Celui de Jeffrey Epstein, homme d'affaires, figure de la jet set, inculpé pour agression sexuelle sur mineurs. Il a été retrouvé mort hier dans une prison new-yorkaise. Apparemment un suicide, selon l'administration pénitentiaire. Mais le ministère de la Justice et le FBI ont ouvert une enquête, car l'établissement dans lequel il se trouvait était considéré comme l'un des plus sûrs du pays. Et Jeffrey Epstein avait fait l'objet d'une surveillance particulière anti-suicide en juillet dernier. Surveillance levée au bout de quelques jours. Des zones d'ombre donc autour de la mort du financier de 66 ans, proche de nombreuses personnalités de politique également, Loïc Loury.
Un type génial, voilà ce qu'affirmait Donald Trump à propos de Jeffrey Epstein en 2002. Depuis, le président américain a affirmé ne pas être un grand fan de l'homme d'affaires. Une prise de distance qu'il partage avec Bill Clinton ou le prince Andrew, tous réputés proches de Jeffrey Epstein. L'homme d'affaires, en effet, avait un carnet d'adresses très épais et son procès promettait aussi d'être celui de ses amis impliqués ou simplement au courant de ses activités criminelles. Pendant des années, le financier avait organisé autour de lui un vaste réseau de victimes mineures, dont il disposait à volonté dans ses propriétés à New York, Palm Beach ou sur son île des Caraïbes, baptisée l'île des pêchés. Au total, des dizaines de victimes présumées, parfois collégiennes, certaines payées pour recruter d'autres filles. Avec la mort de Jeffrey Epstein, l'affaire n'est pas enterrée pour autant. Des centaines de documents viennent tout juste d'être déclassifiés. Un séisme politico-judiciaire toutefois a peut-être été évité. New York, Loïc Loury, France Inter.
Les personnages clés de l'affaire Epstein, un dossier à retrouver sur franceinter.fr. Faire. Pas un jour sans une intervention en Méditerranée pour les bateaux affrétés par des ONG pour venir en aide aux migrants. Hier, l'Ocean Viking a secouru 80 personnes au large des eaux libyennes. L'Open Arms, lui, est à la recherche d'un port pour débarquer les 121 migrants sauvés lors de 2 opérations. Des interventions, Johanna Austin et l'Europe qui ne bouge pas.
Depuis une semaine, la Commission européenne répète en boucle le même message. Nous ne pouvons pas organiser le débarquement des migrants à bord de navires humanitaires. Nous n'en avons pas la compétence. Nous ne pouvons que coordonner une répartition de ces personnes entre les différents pays européens. C'est au capital de se montrer plus solidaire. Et à ce stade, il n'y a pas d'accord entre Européens pour le débarquement des migrants de l'Open Arms. En fait, à chaque bateau, c'est le même schéma qui se reproduit depuis un an. Depuis que Matteo Salvini a décidé d'empêcher les navires humanitaires d'accéder aux ports italiens, plusieurs États, dont la France, poussent pour la création d'un mécanisme plus pérenne de débarquement des migrants secourus en Méditerranée. En vain, pour le moment, les pays de l'Est, notamment, craignent qu'un tel dispositif n'incite davantage de migrants à tenter la traversée vers l'Europe. Nouvelle réunion pour tenter d'avancer enfin sur ce dossier, début septembre à Malte. Johanna Hochstein, France Inter, à Bruxelles.
Une frappe ce matin au Yémen de la coalition menée par l'Arabie Saoudite pour soutenir le gouvernement yéménite alors que les séparatistes, eux, ont pris la ville portuaire d'Aden. Des tensions également entre Israël et la bande de Gaza. Un Palestinien a ouvert le feu sur des militaires à la frontière. Il a été tué alors que juifs et musulmans célèbrent aujourd'hui des fêtes religieuses importantes. Tisha B'Av pour les juifs et l'Aïd el-Kébir pour les musulmans.
L'Aïd el-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam.
Oui, c'est la fête du sacrifice. La tradition veut que chaque famille tue ou fasse tuer un mouton, moment de partage avec les proches. À Paris, Justine Leclerc a suivi une famille dans ses tout derniers préparatifs sur le marché de Barbès.
L'Aïd el-Kébir démarre après la prière du matin. Les familles se retrouvent ensuite pour partager différents repas. Feriel va cuisiner pour ses proches.
Et je fais le même rituel que ma mère le fait en Algérie. Le rituel, c'est qu'on achète la viande et on fait griller la viande. On fait genre un barbecue le premier jour. Et demain, donc, on fera le couscous. On fait genre un festin et on invite tout le monde. C'est un moment de partage, c'est un moment vraiment spirituel aussi.
Traditionnellement, un mouton est égorgé. Pour l'Aïd el-Kébir, une liste d'abattoirs temporaires a été validée par le ministère de l'Agriculture. Oujda va célébrer la fête du sacrifice avec son mari et sa fille.
L'objectif, c'est rassembler la famille. Voilà, et on s'offre des petits cadeaux pour les enfants. On souhaite le bonheur, la paix et la réussite et la santé surtout.
Et on dit comment alors ?
Mabrouk l'Aïd. Bonne fête.
L'Aïd el-Kébir va durer 3 jours. C'est la grande fête des musulmans, différente de l'Aïd el-Fitr, célébrée à la fin du Ramadan.
2 jours après la tornade qui a touché la Meurthe-et-Moselle près du Luxembourg, l'heure est au bilan. 19 personnes blessées, des toits soufflés, une centaine de maisons inhabitables. Julien habite à Erserange. Il a passé la journée d'hier à recenser les pertes et les dégradations.
On est très fatigué, c'est le temps où on refait de nouvelles découvertes. De base, on avait déclaré 2-3 trucs à l'assurance en urgence, mais on se rend compte, on a la voiture. Hein. On a pris quand même pas grand chose, mais on a pris quand même quelques impacts et tout ça. La fenêtre. On a une fenêtre qui est complètement fichue. On a vu les assurances. Normalement, a priori, ça va aller. Là, on a le couvreur qui est abâché en urgence. Ils ont fait, tout le monde a fait quand même un super travail. Tout le monde s'est vraiment bien, 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 bien donné. On a eu une super solidarité, par contre. Maintenant, oui, les prochains jours, On va attendre. On va commencer à laisser redescendre un peu la pression. Parce que là, on en a encore pour quelques jours, voire quelques semaines à digérer tout ça, parce que c'est quand même violent, on va dire. Surtout qu'on l'a vécu en direct et c'est très compliqué. Mais après, on verra.
Propos recueillis par Thomas Véchard, France Bleu Lorraine.
Et c'est un mouvement méconnu de la littérature française.
Le merveilleux scientifique, fondé en 1909 par Maurice Renard, et il reprend des histoires de contes de fées en y ajoutant de la science. Il faut dire qu'à cette époque, les découvertes sont nombreuses. Une expo consacrée en ce moment à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Mayol de Charron l'a visitée.
Des hommes capables de contacter des extraterrestres grâce à des rayons, un soldat blessé qui retrouve la vue grâce aux expériences d'un savant fou. Ces romans s'inspirent des recherches de l'époque et c'est bien ce côté scientifique qui a intéressé Roland.
On baigne dans ce qui était du futur d'il y a un petit siècle. Par exemple, toutes les recherches médicales, l'invention de la TSF qui a surpris la population aussi et qui maintenant, faut plus parler de TSF, plus personne ne sait ce que c'est.
Christophe, lui, est venu de Strasbourg. Il a découvert ce genre il n'y a pas longtemps en faisant des recherches.
Voir à l'intérieur des individus, de se plonger dans le passé ou dans l'avenir. C'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse. L'utilisation de la technique par l'individu pour vivre des aventures extraordinaires.
Et les couvertures de livres tiennent aussi son attention, un graphisme qu'il juge très inventif.
C'est une vision qui fait presque un peu peur quand on voit certaines illustrations. Pas celle-là où on voit une tête. On a l'impression qu'il y a deux tuyaux qui sortent de la machine, qui aspirent le sang de la tête pour aller le mettre dans un flacon. Mais ce que j'aime bien, c'est le graphisme, le mélange des couleurs, l'inventivité. Voilà.
Direction maintenant la librairie pour ce nouvel adepte du merveilleux scientifique. Une démarche qu'aurait apprécié Maurice Renard, le fondateur du mouvement.
Exposition à la BNF jusqu'au 25 août, tous les jours, sauf le lundi. Vous pouvez donc y aller mardi, Laetitia.
Exactement. Merci Estelle Schmitt pour le conseil.